Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, je suis très heureux de vous proposer cette nouvelle émission produite par Studio Gimli, notre site de formation à la photographie. Au travers de ces émissions, nous avons envie de vous faire découvrir des artistes photographes aux univers forts. Nous voulons donner la parole à des chroniqueurs que l'on aime et que l'on admire, avec comme seule ambition de vous faire passer en notre compagnie un agréable moment, vous permettre de développer votre regard, votre culture de l'image, et vous amener au final à voir différemment. Et puisque l'émission est en direct, prenez le temps de nous saluer sur le chat, de nous dire si vous nous suivez de Verneuil ou de Montreuil, de Montauban ou Valaisan, j'aime bien savoir d'où vous nous regardez. Un dernier mot avant de commencer. Notre approche est singulière à l'opposé des chaînes YouTube qui proposent des tests matériels ou des tutos purement techniques. Alors si ce parti pris éditorial vous séduit, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, votre soutien est important. Et puis on est presque à 10 000 abonnés, alors ça me ferait très plaisir que l'on passe ensemble ce cap ce soir. En tout cas, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir. Bonsoir Patrick à La Rochelle, bonsoir, salut l'ami Bernard, bonsoir Josette, bonsoir Arnaud, peut-être nous regardez-vous également en club, bonsoir à tout le monde. Sylvain, mon acolyte et ami de Studio Gimli, est en coulisses, vous pouvez le saluer également, il est là, et bien là. D'ailleurs, il me dit que tout est OK sur notre chat privé, donc tout est OK au niveau de la régie, la réception à vous lire semble bonne, parfait. On est sur des bons rails. Dans cette émission, nous allons accueillir le photographe Olivier Gonnet. Olivier a récemment obtenu le prix Mammifère Sauvage du célèbre concours de Montier et nous avons eu envie de l'inviter pour qu'il nous parle de cette pratique assez rare et mystérieuse. Alors, Olivier a réalisé une dizaine de voyages en Afrique, en Namibie et au Kenya, pour photographier ces mammifères grandioses et sauvages, si impressionnants et pourtant si fragiles, dont je me dis que c'est une chance folle que de pouvoir les contempler en liberté et de pouvoir en témoigner. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir les chroniqueurs qui vont m'accompagner dans cette émission et qui vont vous présenter en deux mots le sujet de leur chronique. Alors accueillez-les chaleureusement, je suis quant à moi très heureux et fier de les avoir à mes côtés. Salut Frédéric, salut Vincent.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bon. Vincent, salut. On commence par toi. C'est parti pour ta première chronique. Ça va, pas trop stressé?
Du tout, non. Bonsoir Iliane, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir dans votre studio qui manifestement attire beaucoup de monde, donc il va falloir se serrer un petit peu. Mais...
Ouais, cool. Eh ben, écoute, en tout cas, on se serre, mais on est bien. Un mot pour te présenter, Vincent, parce que ça fait un bail qu'on se connaît. J'ai eu la chance d'être ton éditeur aux éditions Pearson sur une bonne demi-douzaine d'ouvrages, et je pense même peut-être un peu plus. Et tu as aussi animé sur Studio Gimli une masterclass sur les bases de la photo. Tu es donc auteur, maintenant aux éditions Erol, photographe, formateur aussi à la Nikon School, et dans tes chroniques, qui n'auront rien de people, tu vas t'intéresser aux couples célèbres. Alors, de quoi vas-tu nous parler dans cette première chronique?
En fait, je vais vous parler d'histoire de la photographie sous le prisme des photographes et leur gris-gris. Mmh. On associe souvent chaque photographe à un outil un peu particulier. Et on va explorer ensemble l'impact en fait de leur choix technique sur le développement de leur esthétique et vice versa. Et on débute ce soir avec un quasi inconnu qui s'appelle Ansel Adams. Je vais vous révéler surtout le rapport très particulier qu'il entretenait avec son spotmètre.
D'accord. Alors une chronique garantie sans paparazzi. En tout cas, on te retrouve tout de suite puisque c'est ta chronique qui débutera l'émission. Frédéric, salut.
Bonsoir. Salut Ilan. Bon,
c'est ta troisième chronique en autant d'émissions avec nous. On n'est pas pour autant un vieux couple. Comment ça va?
Mais c'est, écoute, ça va bien. Moi, je commence à être bien habitué à la maison.
Ouais, donc, très bien. Tu es ici chez toi. Donc, dans tes chroniques, toi, tu présentes et mets en perspective des photographes connus ou qui mériteraient de l'être peut-être davantage, en appuyant un aspect spécifique de leur pratique. Et dans cette chronique, aujourd'hui, tu vas nous amener en voyage. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément quel va être le sujet de ta chronique?
Alors moi, je vais vous parler de l'ailleurs, du voyage, de l'exil. Les photographes ont beaucoup photographié le voyage, et donc je vais vous emmener en voyage avec eux ce soir.
Très bien. Bon, alors on se retrouve tout à l'heure. Je suis en tout cas très heureux de faire cette émission avec vous. Sur le chat, je précise, on va commencer par la chronique de Vincent. On aura aussi ensuite l'interview d'Olivier qui nous attend en coulisses. Et on terminera avec la chronique de Frédéric. Alors Vincent, pour initier tes combinaisons illustres, tu as choisi de parler d'un monstre sacré de la photographie, Ansel Adams. D'ailleurs, vous pouvez nous dire sur le chat si vous connaissez déjà bien ce photographe de paysage assez incontournable, il est vrai.
Il y a des chances, ouais, parce que c'est vrai que pour commencer ces chroniques esthético-techniques, j'ai pas choisi le plus, le plus inconnu, on va dire. Et en tout cas, alors pour ceux qui connaîtraient justement Ansel Adams, c'est qu'il l'associerait plutôt à la chambre photographique, qui sera sûr, on va aussi parler de sa chambre. Que ceux qui ne connaissent pas ni Ansel Adams, ni la chambre, ni le SpotMed se rassurent aussi, on va tout expliquer. Pour commencer, par contre, ces explications technico-techniques, avec tout le sérieux nécessaire, on va analyser un petit peu de plus près cette très jolie image.
Ouais.
Alors dis-moi, Ilan, qui vois-tu ?
Alors, je ne te dirai pas ce que je vois, mais néanmoins, je ne suis pas un spécialiste d'Ansel Adams, mais je doute qu'il s'agisse d'une photo de lui.
Eh ben ouais, t'es très, très, très fort quand même. Figure-toi qu'il s'agit d'une image faite par un collectif d'artistes, un très sérieux en réalité, qui s'expose en ce moment à Vevey, en Suisse, et qui s'appelle Riverboom. C'est un groupe d'artistes intellectuels, très, très cultivés hein, en réalité, qui sont plus souvent sur les terrains de guerre, hein, notamment Paolo Woods, qui est photojournaliste, mais qui se détendent régulièrement avec ce genre de farce, en fait.
Ouais. Et tu m'as dit d'ailleurs que cette image faisait partie d'une série plus large intitulée Ansel Adams. Donc vous apprécierez le jeu de mots plus ou moins subtil.
Ansel, voilà.
Ouais.
Dans cette série, en fait, il rend hommage, entre guillemets, à ce monstre sacré hein, qui est Ansel Adams, de façon un peu détournée, avec le principe de montrer leurs fesses de préférence sur les sites qu'il a rendus célèbres.
Ouais. Alors pourquoi c'est drôle en fait à condition d'avoir peut-être un humour un petit peu douteux.
Ah bah ouais, faut avoir un humour un petit peu potache. Mais en fait, moi je trouve ça drôle parce que Ansel Adams à la base c'est vraiment l'esthétique du sublime appliquée aux grands espaces de l'Ouest américain, la Sierra Nevada, le parc Yosemite, etc. Et avec lui, on est dans le grandiose, dans le romantisme, la nature célébrée par la beauté de la création, la dimension sacrée du paysage. Voir sa dimension cosmique, hein, voilà, sur ce genre de photo.
Et du coup,
il y a un clair rapport au divin.
Ouais. Du coup, avec tout ça, on imagine mal, et j'aurais pas pensé formuler cette phrase un jour, on imagine mal Ansel Adams montrer ses fesses sur une photo.
C'est sûr que oui, c'est faux. L'imaginer, par contre, bah, figure-toi que Ansel, à la base, il est pas très sérieux, en fait. Il est assez potache lui-même. Il est même assez cancre, en fait, dans son enfance, hein, comme souvent, en fait, avec les artistes. Et il découvre la photographie un petit peu par hasard aussi, comme souvent aussi avec les artistes photographes.
Ouais. Par hasard, mais en 1927, il a l'illumination.
Selon la légende, hein, lors d'une excursion vers le Half Dome de Yosemite, donc dont on voit la photo, en fait, il veut photographier la scène comme il la voit avec ce qu'il appelle son mind's eye, son imagination. Hein. Mais il sait d'après les tests qu'il a déjà fait que c'est souvent décevant en fait, prendre des photos en paysage, mais il voit pas ce que lui imagine. Et du coup, là, il a l'idée hein, toute bête hein, de mettre un filtre rouge devant son objectif. Tout simplement pour assombrir le bleu du ciel et en fait le dramatiser. Et c'est justement ce qu'il veut, hein, donner ce côté théâtral, scénique au paysage. Et du coup, bah, c'est un eureka, un alléluia hein, pour lui. Mmh. Il comprend qu'il lui faut en fait apprendre à voir le monde comme le voit la caméra. Et avec ce programme-là, il va devenir très, très sérieux et il va développer une esthétique qui vraiment va faire école.
Ouais. Et tu vas nous expliquer que cette esthétique, justement, repose sur deux éléments, sur deux piliers fondamentaux.
Ouais, il y a bien sûr le choix du cadrage, du point de vue. Hein. Lui-même disait, pour faire une bonne photo, il faut avant tout bien se placer. Mais il y a surtout deux éléments en fait plus particuliers hein, qui sont l'extrême précision des détails et la richesse de reproduction des tonalités de la scène. Ouais.
Et alors là, sur la richesse des tonalités, je veux bien que tu expliques un petit peu.
Ouais, bah, expliquons déjà peut-être dans un premier temps la précision des détails, parce que c'est quelque chose qui est vraiment associé à Ansel Adams. Et en fait, ça lui est permis par son utilisation de la chambre photographique. En fait, c'est des gros appareils photo qui permettent d'exposer sur des très grands formats de films, jusqu'à 20-25 centimètres, et ce qui permet en fait une reproduction des détails très très précise et une présence de bruit, de grains plutôt à l'époque, minimale en fait. Les objectifs de chambre, ils permettent aussi de monter sur des valeurs de diaphragme jusqu'à f64. Ça parle peut-être pas trop à ceux qui utilisent des appareils plus classiques, mais c'est spécifique aux objectifs de chambre, et ça lui permet en fait d'obtenir une très grande profondeur de champ, et notamment donc une très grande profondeur de netteté dans sa scène. Et il a même fondé un groupe de photographes, avec notamment Edward Weston, qu'ils ont baptisé en fait les F64, vraiment pour rendre hommage à cet aspect technique en fait qui leur est propre.
D'accord. Donc si je simplifie, tous les plans dans l'image sont nets et il y a énormément de détails. Donc pour le premier point, je comprends à peu près. Pour le second, quand tu parlais de la richesse des tonalités, à première vue, ça semble un petit peu plus compliqué là.
Ouais, bah pas tant que ça en fait, parce qu'on s'en rend compte visuellement. Hein, on voit que ces images, elles offrent une très grande richesse dans la reproduction des luminosités de la scène et quelque part les font vibrer quoi. Et d'après moi, c'est vraiment cette façon particulière hein, de restituer la lumière d'un site qui donne toute son aura aux images et qui nous fait dire un peu à chaque fois « Waouh, il y a du divin là-dedans, quoi, c'est pas possible ». Et chez Adams, en fait, bah, la dimension divine, elle se révèle grâce à son spotmètre en fait.
D'accord, le spotmètre. Donc là, on rentre dans le dur.
Voilà. Bon, on va y aller petit à petit. En fait, pour commencer, pour bien comprendre, il faut savoir que Adams, il fait partie de ces photographes qui sacralisent le tirage photographique comme finalité de l'œuvre, à l'égal un peu d'un tableau. Et le papier photographique, d'un point de vue technique, il présente une dynamique plus faible qu'un film négatif, le film sur lequel il a exposé sa vue. La dynamique du papier, en l'occurrence, c'est sa capacité à restituer un certain écart de luminosité au-delà duquel les ombres ne sont que du noir et les hautes lumières sont que du blanc.
D'accord. Donc, si je comprends bien, le papier ne permet pas de restituer avec autant de finesse les zones claires et les zones sombres d'un négatif. Par exemple, dans une image comme celle qui s'affiche, tout le défi est de parvenir à conserver au tirage la finesse des contrastes dans les zones claires, par exemple des nuages, ou les zones sombres des feuillages.
Exactement, hein, c'est ça l'idée. C'est pour produire des tirages en fait de qualité et optimiser son processus. Adams, il veut s'assurer à la prise de vue que le contraste de son négatif corresponde au maximum à la dynamique de son papier. Et là, il a un problème. Tout simple, parce que le contraste de la scène, en fait, il change tout le temps. Il va dépendre de l'heure, du lieu, surtout beaucoup de la météo. Et du coup, il lui faut s'adapter pour que son négatif présente malgré tout à chaque prise de vue le même contraste une fois développé. Alors là, il fait beaucoup de thèses, beaucoup de photos ratées. Pas tant que ça, j'imagine, parce que bon, c'est Adams quand même. Mais il met au point une technique qui va lui permettre, au final, de déterminer à la prise de vue et en fonction du contraste de la scène, quel temps de développement il devra ensuite appliquer à son film. Et il appelle ça le zone système. Quand même, la classe zone système. Et ça correspond à une échelle de 10 nuances de gris. Alors, ça te rappelle quelque chose, hein, petit coquin. 10 nuances de gris, du noir absolu au blanc pur. C'est surtout, pour simplifier, hein, l'écart entre la zone la plus sombre et la zone la plus claire de sa scène qui va déterminer le temps de développement de son film. Vous avez l'illustration un petit peu de comment il est réparti donc le contraste global d'une scène sur ces 10 zones. Faut savoir que chaque zone est deux fois plus claire que la précédente. Donc on voit qu'entre la zone la plus sombre, le 1 qui est en bas à gauche, et la zone la plus claire qui est en haut à droite dans le ciel, bah on a bien une répartition de ce qu'est capable de reproduire un papier. Et ce qui est fort, en fait, c'est que en réalité la scène est beaucoup plus contrastée que ça. Et c'est son développement qui a permis de rentrer le contraste de la scène dans ces 10 zones.
D'accord. Petite parenthèse, j'aime beaucoup tes 10 nuances de gris. Et en tout cas, puisqu'on parle de contraste et de contraste de la scène, il lui faut estimer ce contraste à la prise de vue. C'est là qu'on va parler du spotmètre.
Eh ben ouais, enfin, enfin, voilà le spotpad, parce que Adams, il a besoin du coup de connaître précisément le contraste de sa scène pour savoir comment adapter son développement. Et c'est ce spotpad qui lui permet de le faire. C'est juste un outil en fait de mesure hein, capable de déterminer la luminosité d'une zone très précise du paysage. Et donc, si tu as bien suivi, ce qui lui importe en priorité, c'est d'évaluer l'écart entre les ombres et les hautes lumières pour savoir ensuite comment adapter le développement du film et optimiser son contraste.
Mmh. Très bien.
Au passage, tu remarqueras un peu la classe. Alors là, c'est le technophile qui parle, la classe folle de son spotmètre. Il y a un mini périscope comme ça. Alors, les plus modernes ressemblent plutôt à ça, voilà, sont un peu plus austères. Ça, c'est le Minolta Spotmeter 5, qui était très, très connu, qu'on croise beaucoup moins ces derniers temps dans les fourre-tout des photographes numériques, hein, mais si tu veux, tout se perd avec les digital natives. Hein.
Non, mais on parle pas.
En tout cas, je trouve ça intéressant en fait que l'idée qu'Adams en fait déploie une prévisualisation totale de son image à venir, non seulement dans sa composition et dans sa netteté, ça lui est permis par sa chambre photographique, mais ce qu'il innove lui, c'est cette prévisualisation aussi dans ses tonalités.
Ce que permet là le spotmètre.
Et voilà, c'est ça.
D'accord.
Et c'est dans la mythologie d'Ansel Adams, cette capacité de prévisualisation totale, en fait, on nomme ça la visualization.
Très bien, donc je comprends à peu près la technique du spotmètre, mais qu'est-ce qui va t'intéresser? Qu'est-ce qui te passionne, toi, finalement, dans cette histoire qui, jusque-là, est intéressante, mais assez technique quand même?
Je comprends pas qu'on ne puisse pas s'intéresser en soi au spotmètre. Mais c'est une bonne question, effectivement. Et c'est là où on va plus questionner le rôle d'une technique dans la mise en œuvre d'une esthétique. Bon. À mon sens, Adams, il incarne un certain culte de la performance technique, de la recherche, de transparence dans la restitution du réel, et qui est encore très présent aujourd'hui. Hein. On le voit dans la compétition entre marques pour produire des appareils numériques avec toujours plus de dynamique, moins de bruit, plus de précision dans la restitution des couleurs, etc., etc. Mais en réalité, si je puis dire, ce réalisme, il est factice, en fait.
Ouais, je comprends l'idée, en fait, quand on voit une image d'Ansel Adams, on se dit « waouh », mais en fait, on sait très bien qu'on ne verrait pas le lieu de cette manière en vrai, qu'il est en quelque sorte sublimé par la technique photographique et qu'il n'est plus réel, quasiment.
Exactement. Et là, on touche, à mon sens, à un certain paradoxe entre réalisme et esthétisme, hein, en ce sens qu'en cherchant la transparence du médium à travers la perfection technique, l'exactitude, on fait finalement parfois plus voir l'image elle-même que la réalité qu'elle représente. Mmh. Il me semble flagrant chez Ansel Adams, en fait. Hein. Mmh. Et à mon sens, en fait, il faut assumer qu'une photographie, c'est toujours la création d'une image traduisant le visible en langage photographique. Ce qu'il avait très bien résumé avec sa formule « apprendre à voir le monde tel que la caméra le voit », c'est-à-dire, autrement dit, voir et penser en photographie, en fait. Mmh. Mmh. Et alors, je rejoins ce que tu disais, c'est-à-dire ce qui est montré comme une nature vierge, primitive, ça devient, dans ces images, un spectacle entièrement construit, en réalité. Autrement dit, la nature vierge devient culture par son acte photographique, et de ce fait, il déréalise en quelque sorte la nature tout en la sublimant.
C'est un paradoxe.
C'est un peu un paradoxe, ouais, mais qui est super intéressant en réalité.
Oui, oui, oui.
Alors, en résumé, hein, le principe d'Adam, c'est le contrôle maximal sur les caprices de la lumière, des atmosphères changeantes. Vraiment pas une démarche intuitive qui laisserait faire le hasard. On est avec lui dans une démarche qui est complètement aux antipodes de celle, par exemple, d'un photographe un peu fou qui est Gary Winogrand, qui travaillait lui exclusivement dans la rue, dans l'urbain, et qui, quelques années plus tard, avec son Leica, va se mettre à photographier à tout va, 10 rouleaux par jour, juste pour voir à quoi ressemblent les choses une fois qu'elles sont photographiées. Et en laissant en quelque sorte une grande autonomie à son appareil photo dans la création de l'image, en fait. Et ça, ce sera l'objet de la prochaine chronique.
Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Beau baptême du feu, bravo. Merci. Tu restes bien entendu avec nous, puisqu'on te retrouve en fin d'émission pour ta recommandation. Et on te retrouve, c'est noté, et avec grand plaisir, pour une prochaine chronique dans une prochaine émission, donc consacrée à Gary Winogrand et son M4. C'est bien ça?
C'est ça, exactement.
Eh bien, à tout à l'heure pour la fin d'émission. Merci beaucoup En tout cas, Vincent, il est temps maintenant d'accueillir notre invité Olivier Gonnet. Olivier est photographe animalier, amoureux de la nature et des grands fauves, qu'il photographie avec une approche naturaliste pour rendre compte sans artifice de la majesté et de la beauté de cette nature sauvage. Il a remporté en 2022 le prix Mammifère Sauvage du concours de Montier et ses photographies participent aux plus grands concours internationaux. Avec Olivier, je vous propose une interview plus contemplative à la découverte d'images rares, vous le verrez, de mammifères sauvages vivants dans leur habitat naturel et d'aller ensemble à la rencontre de ces grands fauves qui semblent si proches et pourtant si lointains. Olivier, salut.
Salut Ilan, salut tout le monde, tous les copains qui me regardent. Merci d'être là et merci de m'interviewer. Ouais, super, super. Un peu stressé, mais ça va, c'est normal. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais ça va bien se passer. Bon. Donc voilà, ben merci en tout cas, Ilan.
Bon, mais en tout cas, on est ravis de t'accueillir. Je dis on, Sylvain et moi. Écoute, on va commencer simplement avec une image. Ouais. Une image que l'on va montrer là, c'est l'image qui a remporté le prix de Montier, qui a contribué à ta renommée récente. Est-ce que tu peux nous en parler?
Alors oui, bien sûr. Alors déjà, bon, c'est une image que j'ai réalisée en novembre 2018 au Kenya, dans la réserve du Masai Mara. Mmh. Donc, pour l'histoire, comment ça s'est passé? Ben en fait, on était dans le 4x4. Parce que c'est en safari, bien sûr, évidemment. Donc, on part dans un 4x4. Le guide, au loin, voit une scène un peu particulière. Il nous dit « Lion, lion and buffalo ». Et on dit « Bon, ben ok, qu'est-ce qui se passe ?» On n'avait pas encore bien vu ce qui se passait. On se rapproche de la scène. On voit cette lionne sur ce tronc. Hein, et on comprend qu'il se passe quelque chose. Alors, bon, c'est une scène qui est pas rare au Kenya. Elle arrive, hein, bon… Sauf que bon, il faut être là pour la photographie, hein. Ouais. Mais en fait, c'est le buffle qui vient, qui veut venir tuer les bébés lions.
C'est ça.
Avant que les lions viennent tuer le buffle. Voilà. C'est une stratégie en fait des buffles.
Ouais. C'est une stratégie de protection par anticipation, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Ouais. En fait, il vient, les tuer avant qu'ils soient tués. Voilà. Donc en fait, tu veux des trucs un peu techniques, je pourrais t'en dire, mais bon, je pense que c'est pas le sujet du truc. Mais je suis au 600 mm, voilà, je vais quand même en dire un peu. Je suis au 600 mm. Comme tu vois la photo, elle est cadrée comme ça, c'est-à-dire que je ne l'ai pas recroupée d'un millimètre. Elle est normale, là, voilà, comme je l'ai prise. Donc, j'ai essayé de pas couper les pattes du buffle. Et de temps en temps, la lionne, avec sa queue, ben, elle bougeait un peu la queue parce qu'elle se dressait sur le tronc pour être un peu plus menaçante. Et de temps en temps, j'ai coupé la queue. Mais voilà, donc j'ai réussi à faire deux ou trois photos quand même. Voilà, donc
J'allais te demander justement combien de temps avait duré la scène.
Ah, la scène, elle a duré 5 minutes parce que c'était la fin de journée. On était au terme du safari. On rentrait vers le camp et pour encore être dans le technique, je suis à 16 000 ISO avec un 600 mm à 1/320. Donc je peux pas faire mieux. Juste après la nuit tombée, c'était fini. Et après ensuite, il s'est avéré que le buffle est parti, heureusement.
Oui. J'allais te demander la fin de l'histoire.
Ouais, non, la fin est heureuse. Ouais. Yaya, parce qu'elle s'appelle Yaya, cette lionne, a réussi à intimider le buffle et a réussi à défendre sa progéniture. Voilà. Voilà, donc c'est une photo qui est effectivement marquante. Hein. C'est une scène, en fait. Hein. C'est plus une scène. Voilà. Il y en a beaucoup qui disent, on dirait un tableau. Et c'est vrai. Hein, la façon dont elle est composée, elle raconte une scène. Voilà. C'est pas une scène d'action exceptionnelle, mais elle est là et elle raconte la dure vie des lions, même si c'est le roi de la savane, ben pas tout le temps. Des fois, il arrive à avoir ses prédateurs qui viennent, enfin ses proies plutôt qui viennent l'intimider, voilà.
Et justement, tu en parlais, tu es allé toi une dizaine de fois en Afrique, en Namibie et au Kenya pour photographier dans ces grandes réserves naturelles. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots peut-être sur l'importance de la phase de préparation, par exemple. Est-ce que tu te documentes beaucoup en amont sur le pays ou sur les animaux que tu vas photographier?
En fait, pour le Kenya, maintenant, à force, je commence à connaître les animaux qu'il y a et tout. Pour les autres pays, ouais, comme la Namibie, oui, j'ai beaucoup cherché pour savoir où est-ce qu'on pouvait les rencontrer, surtout parce que en Namibie, c'est plus vaste. On n'est pas sûr de trouver à chaque fois des animaux. Donc oui, je me suis renseigné plus pour les localiser, on va dire, pour savoir dans quel parc on pouvait les voir. Mais après, c'est surtout sur la connaissance de l'animal, en fait. Hein. Voilà, on essaie ça à force avec l'expérience. Je sais qu'un lion va pouvoir faire telle ou telle scène. Mais voilà, c'est plus sur la connaissance du terrain, en fait, que sur la préparation pour connaître l'animal. Après, oui, si c'est des animaux particuliers, je vais un peu me documenter. Mais bon, c'est plus sur le terrain, en fait, voilà.
Ouais. Et quand tu pars, tu as une idée peut-être des animaux que tu souhaites photographier. Est-ce que tu choisis ton matériel photo, tu disais un 600 mm, en fonction des animaux que tu souhaites photographier, ou au contraire, tu vas adapter tes prises de vue en fonction du matériel dont tu disposes?
Ah oui, ça, c'est le plus important. C'est la phase pour sélectionner le matériel.
Ouais.
En fonction où on va plus ou moins prendre du matériel. Bon, là, c'était, on va dire, le safari le plus complet, hein, parce que j'aime bien partir avec tout. Moi, je pars avec beaucoup, je préfère partir avec plus que moins. Donc, c'est le sac qui fait souvent plus de 17 kilos. Hein. Alors, bon, voilà. Donc, en fait, en fonction, selon où on part. Alors, bon, au Kenya, la proximité avec les animaux, ben, on peut avoir des lions qui nous passent à côté de la voiture, donc ils sont pas forcément loin. Mais par contre, mon style photographique va plutôt s'orienter vers des longues focales pour éviter l'effet plongé. Mais ça, on en reparlera après avec les techniques que j'utilise. Sinon, voilà, si je pars, par exemple, en Namibie, je sais que les animaux vont être plus lointains, donc je prendrai un 600. Sinon, selon la forêt, il faudra avoir un 408 qui est plus lumineux. Mais bon, après, j'ai pas un 408 et un 600 F4 à chaque fois. Hein. On va dire, je vends et j'essaie d'avoir le bon objectif au bon moment. Voilà.
Ouais, je comprends l'idée. Donc là, on voit ton matériel qui est effectivement impressionnant. On en reparlera peut-être dans le cours de l'interview. Toujours sur la phase de préparation, j'ai lu récemment un ouvrage paru aux éditions Erol de David Yarrow, qui est donc notamment un photographe animalier, qui écrivait « Faites vos devoirs, ayez une idée de ce que vous voulez faire avant de sortir de chez vous. Sachez quel type d'image vous visez, même si vous finissez par changer de voie. » Est-ce que toi, avant de partir, tu as une idée précise de scène que tu aimerais photographier, ou est-ce que véritablement on peut pas prévoir et tu te laisses guider et improvises?
Alors, on peut pas vraiment prévoir une scène, c'est évident. Hein, la scène que j'ai eue là avec le buffle et les lions, même dans mes pires rêves, mes meilleurs rêves, je n'avais pas imaginé. Mais voilà, mais en fait, avec les réseaux sociaux, maintenant, on sait plus ou moins ce qu'on peut rencontrer. Donc, notamment des bébés lions, des bébés léos. Voilà, s'il y a des rhinos qui sont dans la région où on va aller. Donc, on va peut-être pouvoir s'imaginer de faire des photos, mais c'est la nature qui va choisir. Et c'est ça qui fait le charme, hein, de la photo, parce que si on savait qu'on allait photographier exactement ce qu'on avait dans la tête, ben il y aurait plus de charme. Donc non, on peut pas vraiment prévoir. On peut peut-être anticiper sur le moment quand on va voir une scène, mais prévoir de réaliser une photo, alors c'est pas tout le temps vrai. J'ai quand même réalisé une photo que j'avais imaginée bien avant de partir. Mais je t'en parlerai plus tard, c'est une autre photo.
Je pense qu'on la voit à la fin de l'émission.
Voilà, donc je t'en parlerai, mais celle-là, oui. À part celle-là, le reste, je laisse la nature choisir et me guider.
D'accord. On va en dire deux mots quand même. Toi, tu photographies des animaux sauvages, tu l'as dit, dans des réserves naturelles. C'est une pratique, j'imagine, qui est quand même extrêmement encadrée. On peut pas faire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des bases éthiques, par exemple, qui dictent cette pratique?
Alors, en safari, notamment au Kenya, on est dans une réserve, un parc, hein, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Déjà, on est guidé par un guide Maasai, hein, un conducteur qui va lui avoir des règles hein, qu'il doit respecter par rapport au parc. Donc, bon, ouais, c'est évident qu'on ne peut pas descendre de la voiture, qu'on ne peut pas faire de hors-piste, on ne peut pas interagir avec les animaux. On ne va pas s'amuser à essayer de caresser un lion quand il va passer près de la voiture. Hein. Tout ça, c'est des règles que tout le monde connaît, en fait. Hein. Voilà, il y a des trucs à respecter. Et il y a de toute manière des rangers qui vont venir faire respecter cette loi. Et on est toujours dans un parc, on peut pas faire ce qu'on veut, c'est évident, voilà, ça c'est sûr.
C'est une pratique qui est encadrée.
Voilà, et c'est bien comme ça, hein, parce qu'il faudrait bien pas sûr que chacun fasse n'importe quoi, parce que sinon l'être humain il est comme ça, s'il a pas de limite, il va à chaque fois essayer d'avancer, faire n'importe quoi. Et là, voilà, donc c'est pas plus mal. Après, voilà, ça reste des animaux sauvages, ça reste c'est pas des parcs avec des barrières, hein, c'est pas des parcs avec des ils sont pas dans des cages. Hein.
Ouais,
donc, il peut se passer un peu des trucs qu'on n'avait pas envisagé hein, pour les lions, mais le guide est là pour justement faire respecter ce truc et il est vigilant sur ça parce qu'il connaît très très bien les animaux. Voilà.
Ouais. Je pense que c'était important de dire que cette pratique quand même est encadrée, que ces animaux sont en réserve naturelle, ils sont en liberté, et que ces réserves peut-être aussi survivent financièrement parlant, en tout cas grâce aussi à ces activités photographiques ou de visite, pour peu qu'elles soient évidemment respectueuses et de l'environnement et de la tranquillité animale. Le but, c'est d'interférer le moins possible avec l'animal.
Tout à fait, tout à fait. Voilà, il faut surtout pas commencer. Alors, il y en a qui le font. Hein. On a vu des trucs sur les réseaux sociaux, des gens qui commençaient à faire n'importe quoi. Du coup, il y a des pratiques qui sont devenues interdites. Hein. On en parlera un peu plus tard, la planche, à cause de certains débordements, maintenant, elle est devenue interdite. Mais bon, c'est pas plus mal. C'est pour respecter les animaux. Et au final, il vaut mieux, quoi. Voilà.
Bien sûr. Alors, on va parler maintenant de l'animal dans son environnement. Un point primordial pour toi, c'est de photographier ces grands mammifères en liberté, dans leur habitat naturel. On va voir une image. Par exemple, sur cette image, il me semble que ce sont des oryx dans un paysage qui est caractéristique de leur habitat. C'est important pour toi de photographier l'animal et qu'on puisse identifier son habitat.
Ouais, c'est très important. Pour moi, il faut arriver à mettre l'animal dans son environnement. Là, il s'agit d'oryx. Son surnom, c'est l'antilope du désert. Donc, pour moi, il fallait qu'il soit sur un désert ou avec le désert en déco. Voilà. Parce que une belle photo, pour moi, doit être composée. Alors, c'est pas qu'un sujet net. Hein, c'est aussi remettre le sujet dans son décor. Et en plus de ça, là, les oryx, ils ont un ton un peu rose aussi, comme la dune. Donc, c'est presque du ton sur ton. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que bon, après c'est pas tout le temps évident hein, d'arriver à réussir ces trucs, mais si on arrive à aligner et à faire rentrer le sujet, l'animal dans son décor, ben on a réussi quoi. Voilà. Enfin, pour moi c'est mon style de photo. Après voilà, il y en a d'autres qui ont d'autres styles, hein, mais moi ce que j'aime c'est ça, c'est plus des photos naturalistes on va dire en fait. Voilà.
Ouais. Oui, on le voit bien, et pour rendre la majesté de l'animal dans son environnement, sans artifice, c'est vrai qu'on a une belle harmonie de tonalité et des couleurs sur cette image. Là, tu es à quelle distance? Est-ce que les oryx t'avaient vu, tous les regards?
Alors, vers toi? Là, oui, ils m'ont vu parce que j'étais pas caché, penché dans la voiture, hein, c'est en Namibie, ça. Mais là, je dois être à 50 mètres, je pense, des oryx. Je suis avec le 600 aussi encore.
Ouais.
Et par contre, voilà, j'ai vraiment attendu qu'ils passent devant ces dunes. Mais ils sont pas effrayés. Hein. Ils m'ont juste regardé. Et puis après, ils ont repris leur route. Et puis, ils ont passé les dunes. Et puis, ils n'étaient plus dans le décor. Quoi.
Donc, bon, là, le moment n'a duré qu'un temps.
Ah, ça a duré rien du tout. C'est pour ça que c'est hyper éphémère. Il faut être là. En fait, il faut savoir anticiper la photo. Et il faut pas la louper parce que ça dure rien. Et puis, un quart de seconde après, ils broutaient et puis ils partaient, quoi. Voilà.
Ouais. Et donc, tu disais, un des grands enjeux pour toi, c'est de photographier cet animal en liberté dans son environnement. Et les lumières, justement sont une partie importante de l'environnement. J'aimerais que tu nous parles justement de ces lumières, peut-être autour de quelques-unes de tes images qui les mettent particulièrement bien en valeur. Là, on a, pareil, dans l'harmonie des contrastes, et des lumières et des tonalités, ici, on a un lion dans une lumière dorée magnifique. C'est une lumière du matin. Quelle est l'histoire de cette prise de vue?
Alors, en fait, c'est au petit matin. Hein, donc, voilà. De toute manière, si la lumière est belle, si on voit un coucher du soleil, on va dire waouh, voilà. Donc, si on arrive à mettre un sujet, un animal dans une belle lumière, il y aura toujours cet effet waouh, voilà. Bon, là, la particularité de cette photo, c'est que le lion est en contre-jour. La photo a été prise en contre-jour pour faire ressortir cet effet doré, cet effet golden light. Donc, voilà, ce qu'il faut, là, c'est à nous un peu de peut-être, on va dire, aiguiller le guide à ce qu'il réalise, pas pour qu'il nous mette dans cette bonne situation. Hein. Donc là, on lui a dit clairement au guide, non, reste à contre-jour pour qu'on puisse, parce qu'on savait qu'on voulait faire cet effet. Donc voilà, c'est de toute façon, le matin, à la belle lumière, s'il y a un sujet, c'est banco, quoi. Voilà, je veux dire, c'est facile, on va dire. Voilà, c'est facile. C'est pas le plus compliqué.
D'ailleurs, quand on photographie en paysage, on va privilégier peut-être les petites heures du jour ou les dernières heures à la tombée de la nuit. C'est la même chose quand tu fais ces voyages. Tu photographies plutôt aux extrémités de la journée, le matin et le soir.
Ouais, on essaye voilà d'être là au bon moment. Bon là, je pars avec une structure, un tour opérateur qui est spécialement fait pour les photographes animaliers exigeants, on va dire, ou photographes animaliers tout court. Donc il sait très bien que voilà, on doit partir tôt le matin, donc on part avant le lever du jour et on essaye d'avoir le sujet, enfin de trouver le sujet assez rapidement pour le début de la journée. Mais on a toujours quelque chose à se mettre sous la dent, ou un éléphant à contre-jour avec un soleil, ou un lion ou des guépards, enfin on essaie de trouver. Et puis après, de toute manière, le reste de la matinée, on continue à chercher pour, parce que c'est quand même, il n'y a pas que la photo. Quand on se retrouve dans ce décor, on en profite au maximum. C'est tellement beau de voir ces animaux sauvages vivre leur vie tranquille. Donc, on essaye de faire les plus belles photos au début, c'est vrai, hein, parce qu'après, la lumière, elle devient vite dure en Afrique. Mais bon, c'est pas grave, on en profite. On en prend plein les yeux et puis on kiffe, quoi, voilà.
J'imagine que pour les fauves, en tout cas, ils sont plus actifs, ou en tout cas, c'est les moments en début de journée ou en fin de journée où ils sont plus actifs, que peut-être ils dorment plus en milieu de journée. Ceci dit, je dis ça, mais ma connaissance des fauves n'est pas extrêmement...
Non, mais tu as raison. Non, mais c'est ça. Extrêmement riche. Le lion, c'est un animal qui dort beaucoup. Ouais. Donc, souvent, tu le vois coucher les quatre pattes en l'air, en train de dormir. Donc, mais c'est pas grave, voilà, il peut y avoir des bébés lionceaux qui vont venir embêter leur papa, il peut y avoir voilà, plein de trucs. Donc même s'il y a plus la lumière, même si on sait qu'on fera pas la photo du siècle, on en profite, on en prend plein les yeux, et puis ça permet aussi d'anticiper sur les autres photos, parce que si on trouve un léopard, on va se dire bon, ben on reviendra plus tard, on essaiera de le photographier à la belle lumière. Voilà, il y a toute une stratégie derrière un safari, en fait. Surtout pour les safari photo.
Alors, en parlant de belles lumières, puisqu'on est dans cette thématique, la scène ici est impressionnante à plus d'un titre. D'une part, parce qu'il s'agit de rhinocéros noirs et apparemment, ils sont devenus très rares. D'autre part, parce que le moment de la prise de vue, lui, est assez extraordinaire.
Ben alors là, il y a eu plusieurs éléments qui se sont conjugués. Bon, déjà, de voir deux rhinos, moi, j'avais deux rhinos noirs. Hein, donc, comme tu disais très justement, ils sont en voie de disparition, il n'y en a quasiment plus. Donc là, deux sur la photo, enfin une mère et un petit, et une belle lumière, donc deuxième élément. Et troisième élément, ces oiseaux qui volaient autour là du point d'eau, qui forment un bokeh un peu enchanté, là, on ne sait pas ce qui se passe vraiment, mais bon, ça apporte un plus à la photo. Bon, c'est on va dire, un alignement de trucs qui font que la photo... il ressort quelque chose de cette image. Bon, c'est pas une photo de fou, mais voilà, il y a quelque chose. On voit l'attitude des rhinos qui est aussi sympa. Et puis voilà. Bon, ça, c'est une photo qui a été faite en Namibie autour d'un point d'eau. au parc des Tocha. Voilà.
Ouais. Et tu le disais, là, c'est des animaux assez rares. Tu le disais aussi tout à l'heure, t'as beau être dans un parc naturel, tu peux pas avoir l'assurance de trouver un animal en particulier, même en restant 2 semaines sur place. Il y a quand même une part de... pas de chance, mais tu parlais d'alignement des astres, il faut qu'il y ait des bons alignements aussi.
Ah non, mais carrément, je veux dire, voilà, on peut pas le prévoir, ça, malheureusement. Alors, on peut essayer de l'anticiper, d'essayer de forcer la chance, à chercher de partout, voilà, pour trouver les animaux, parce que faut pas croire, mais en Afrique, c'est pas facile de trouver, c'est pas tout le temps facile de trouver des léopards, des lions et tout ça, hein. Souvent, il y a des journées où on passe la journée à chercher les animaux et on trouve pas. Et voilà. Par contre, quand il se passe la scène, il faut être là ou l'anticiper. Là, comme on voit sur ce genre de photos, c'est un classique, hein, pour les photographes animaliers qui sont présents peut-être sur la chaîne là aujourd'hui. Ils savent très bien cette photo, ils la connaissent. Tout le monde veut la faire. C'est justement quand le soleil se lève, aligné à un gros mammifère, donc là l'éléphant, qui va s'aligner avec ce lever de soleil et avec les couleurs oranges, ça fait une belle silhouette.
Ah bah oui.
Et voilà. Donc après, voilà, ça c'est avec l'expérience, les habitudes qu'on va au moins pouvoir anticiper ce genre de scène. C'est les guides, hein, ils connaissent très bien l'exigence des photographes à force, et ils savent très bien que le matin on veut tous faire cette photo, donc ils vont faire au mieux pour qu'on arrive à faire cette photo, et ils vont se placer au millimètre, parce que voilà, la photo au final, on est quand même bridé par le fait d'être dans une voiture, et je pense que 50% de la photo appartient aussi au guide. Faut le reconnaître. Moi, je leur tire mon chapeau parce que c'est grâce aussi à eux qu'on arrive à faire de belles images.
Ouais, voilà. C'est une création d'équipe, du coup, vraiment là.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà. Une petite question un peu naïve. On parlait des lumières. Tu peux travailler la lumière, avoir des lumières additionnelles. On a vu qu'il y avait dans ton barda des flashs déportés. Tu les utilises à des moments sur le terrain ou que à quoi ils servent ?
Alors pour l'Afrique là, le flash non. Le soir un peu, parce que le soir autour du camp, il peut y avoir des animaux qui tournent autour du camp, des genettes, des galagos, des hyènes, tout ça. Donc oui, on peut s'amuser autour du camp avec le flash, mais quand on se trouve en game drive, en safari, non, c'est pas pour.
Il y en a qui le font
parce que ils arrivent à placer des flashs un peu à droite à gauche, mais bon, c'est hyper compliqué, hein. Là, ça demande une organisation un peu plus élevée. Là, moi, je prétends pas avoir ce niveau là, mais oui, on peut le faire avec les pièges photo. Voilà, si on veut mettre un piège photo. Évidemment, pour photographier les animaux nocturnes, donc on peut utiliser les flashs. Moi, en ce qui me concerne là, c'est plus pour les photos autour du camp, voilà. Et il m'arrive d'utiliser le flash, mais c'est pas dans la journée, en tout cas.
Bon, voilà. Il y avait Laurent Banneux qui sur le chat posait la question, donc effectivement, je la remontais. Je reste sur l'idée d'aller à la rencontre de l'animal dans son habitat naturel. On a parlé des lumières. Il y a aussi montré comment l'animal vit et arriver à saisir justement des scènes qui sont caractéristiques de son quotidien ou en tout cas qui sont emblématiques de la vie là-bas. Là, on a une traversée de gnous d'une rivière. Il y en a des centaines. C'est un troupeau extrêmement impressionnant.
Alors ça fait partie des, quand on est photographe animalier, des spectacles à voir, j'ai envie de dire, parce que la grande migration de gnous, c'est quoi? C'est, je crois, l'équivalent de 2 millions de gnous qui font une boucle, qui vont chercher l'herbe fraîche au fur et à mesure, donc ils font une boucle. Et ils arrivent de la Tanzanie, ils traversent la rivière Mara. Ça, c'est la rivière Mara, c'est la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. Ils vont traverser deux fois, donc une fois à l'aller, une fois au retour, la rivière. C'est un spectacle à voir. Pourquoi ? Parce que déjà, ils se regroupent, ils attendent d'être plusieurs pour pouvoir traverser. Ils ne font pas seuls, ils attendent d'être plusieurs. Et quand il traverse, c'est énorme, c'est impressionnant ce spectacle. Ça a dû un brouhaha énorme.
Ouais, j'allais te demander, ça doit faire du bruit, ouais. Effectivement.
Ah, c'est énorme, ouais. C'est énorme. C'est voilà, là on voit un peu de fumée. Alors bon, ça met du temps, hein, parce que c'est pas un... le gnou, il a la tendance habitude de mettre du temps en fait avant d'y aller, de se jeter parce qu'il est, il a peur. Hein. Donc on va dire, il y en a toujours un plus courageux que les autres ou plus fou pour se jeter. Et dès que le premier s'est jeté, les autres vont le suivre et c'est là que ils veulent tous y aller en même temps. Donc ça fait un bruit ouais. De fou. Et puis tous les gnous vont traverser. Et on va voir évidemment tous les prédateurs qui sont autour, qui attendent ça. Donc les crocos,
ah bah
les
lions,
qui attendent. Voilà. Et donc il y a toujours des scènes de fou, des crocos qui viennent croquer. Des gnous ou des zèbres, hein, parce qu'il y a aussi des zèbres qui sont dans ce truc. Mais voilà, c'est un spectacle à voir. Bon,
ouais. Et là,
voilà. Dis-moi.
Tu me parlais aussi du hors-cadre, et c'est vrai que je reprends aussi une remarque qui nous est faite sur le chat. Là, effectivement, dans des zones naturelles comme ça, tu n'as pas le droit de toute façon d'être à pied. Les seules façons de faire vivre ces parcs en les visitant, c'est d'être drivé, d'être conduit par un chauffeur spécialisé qui lui va savoir exactement où on peut aller sans déranger trop l'animal. C'est bien ça.
C'est ça.
C'est et là sur une scène comme ça, si on prend le hors cadre un petit peu, il y a plusieurs voitures effectivement qui vont photographier. Alors.
Ça, le hic de ce spectacle, c'est justement, comme tout spectacle, tout le monde a envie de le voir. Hein, donc, évidemment, là, on le voit pas sur la photo, mais il y a plusieurs 4x4 avec nous. Hein, ils sont nombreux. Mais voilà, ça fait partie du truc. Hein, il faut le prendre en considération. Hein, quand on va voir comment un artiste, un concert, on sait qu'il va y avoir du monde. Hein, là, c'est pareil. Hein.
Et de toute façon, j'imagine que pour photographier des animaux sauvages en liberté, en fait, pour photographier des animaux sauvages, maintenant, où on va dans un zoo et ils sont pas en liberté, où effectivement, c'est dans des réserves comme ça où ils sont sauvegardés en liberté, mais il y a des contraintes qui sont inhérentes à l'ensemble.
Ouais. À l'ensemble, il faut le prendre en considération. Après, tout le monde se doute que quand on va en safari, on va pas être seul dans la savane. Ouais. Bon, voilà. Donc, pour ce genre de spectacle, c'est évident, il y a beaucoup, beaucoup de monde. C'est un beau spectacle. Donc, voilà. Mais bon, moi, je critique pas, je crache pas dans la soupe parce que je suis dans un 4x4 moi aussi.
Ouais, bien sûr.
Et j'en profite aussi de ce spectacle. Et voilà, il faut juste se dire que, il peut y avoir du monde et puis c'est comme ça quoi, voilà.
Ouais. Et en tout cas ça permet d'en témoigner et on va voir d'autres scènes de vie qui sont extrêmement impressionnantes. Quand on parle de grands fauves, évidemment il y a des scènes qui sont des scènes de chasse. Moi j'ai été extrêmement impressionné par alors la scène peut-être là plus que l'image, parce que des fois, effectivement, il y a ce duel entre une scène qui est extrêmement impressionnante et qu'il faut rendre. Là, on a quand même un lion qui est en train de boulotter un hippopotame. Je croyais que c'était un animal très dangereux, l'hippopotame.
Alors, là, c'est un petit hippopotame. Hein. Il est dangereux s'il est dans. S'il se retrouve. L'hippopotame c'est l'animal qui fait le plus d'accidents hein, on va dire pour l'homme parce qu'il est extrêmement dangereux. Si on se retrouve entre lui et son point d'eau, il nous charge, il nous tue, il nous envoie en l'air, ça c'est voilà. Et le lion aussi tout le monde le connaît, mais pour cette image en fait l'hippo était déjà mort là, hein. c'est pas une vraie scène de chasse.
D'accord.
Il le traînait. Voilà, je vais pas vous mentir. Ouais. Donc j'ai pas suivi, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais là il était déjà mort. Il le tirait pour le protéger des. Je crois là, il y avait un chacal qui rôdait et des hyènes qui voulaient lui prendre son butin. Donc il essayait de le mettre en sécurité pour le manger un peu plus loin, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est évident que les scènes de chasse. Ça fait partie des très beaux spectacles aussi qu'on peut voir dans la savane.
On va en voir une seconde que je trouve très, très réussi là en plus. Donc on a un guépard et un guépard d'eau. Alors je sais pas ce qu'ils ont attrapé.
Alors ça c'est un impala, hein, c'est ouais. Une maman et son guépard. Alors ils étaient deux les petits guépards, sauf que bon, ben sur la photo il est pas. Voilà, c'est une scène de vie dans la savane. Hein, ouais. Donc je fais pas que les photos au 600, là, c'est au 100, 500. Hein, c'est une photo que il y a plus de profondeur de champ, même si les animaux sont floutés quand même, mais on les voit plus. Donc derrière on voit une girafe, un zèbre.
Voilà, oui, c'est ça. Moi, j'ai été étonné par la vie, en fait, sur cette photo, parce qu'effectivement, on a un deuxième plan avec un zèbre, un troisième plan avec une girafe qui regarde la scène. Voilà, la composition, je trouve, est très réussie. Et en plus, on a quand même une richesse de détails sur le dos du guépard d'eau, peut-être parce qu'il est assez jeune. On voit les poils hérissés en
crinière. Ouais. Ouais, quand ils sont petits, ils ont encore une crinière. Et là, c'est un tout petit, hein. Donc du coup, il a encore sa crinière. Mais ouais, voilà, c'est pour ça que j'utilise pas que le 600 qui lui a tendance à réduire considérablement la profondeur de champ. Je suis aussi un zoom qui apporte un petit plus aussi à la scène. Bon, voilà, là, c'était une scène. Bon, par contre, je suis relativement bas là. Hein. Je suis avec le 100-500. Il faut savoir bien l'utiliser et là j'essaie d'être le plus bas possible quand j'utilise le zoom parce que sinon il a tendance à trop marquer le fond et ça peut être disgracieux. Là ça va, ça passait. Je trouvais que le décor avait son importance. Voilà.
Ouais, le décor a son importance. La scène du coup et il y a une belle composition. On va les suivre. Alors je sais pas si c'est eux qu'on va suivre, mais en tout cas on va retrouver dans les scènes de vie. Il y a des scènes plus tendres. Parce que parfois les scènes de chasse, c'est peut-être dur d'ailleurs à photographier, c'est des scènes qui sont quand même assez âpres. Là on a une scène beaucoup plus tendre avec un guépard, une guéparde et un guépard d'eau. Là c'est un instant de complicité, il y en a aussi.
Ouais, ben voilà, là sur il n'y a pas que les scènes de chasse, même si c'est très beau, une scène de chasse, surtout les lionnes, elles ont toujours une stratégie, elles arrivent à communiquer entre elles, je ne sais pas par quel moyen, mais elles arrivent à faire une stratégie pour chasser. Il y a toujours une lionne qui va diriger la chasse. Les autres, elles vont se préparer pour anticiper la chasse. On dirait que c'est une, je sais pas comment elles font. Hein. Et c'est toujours intéressant. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il y a les scènes aussi plus tendres hein, entre un bébé guépard et une mère guépard. Voilà, il faut tout montrer, aussi bien le moins drôle, hein, parce qu'une chasse c'est moins drôle que ça. Mais c'est tout aussi beau, quoi. Voilà, c'est un peu ma touche. Moi, ce que j'aime bien, c'est ça, c'est montrer les animaux comme ils vivent, en fait. Voilà, c'est des scènes de comportement. Voilà, tout simplement.
Et on a montré, effectivement, on a parlé de ces images où tu saisis l'animal dans son environnement, dans ses belles lumières, dans ses scènes de vie du quotidien. Mais il y a aussi ces images qui vont s'apparenter presque à du portrait, comme dans ces photos en plein pied où on voit, et je crois que c'est un cadrage que tu aimes beaucoup, l'animal qui vient sur toi, là, un lion dans toute sa majesté. Pourquoi est-ce que tu aimes particulièrement ce cadrage, toi?
Alors moi, pour moi, ça fait partie de mes cadrages préférés. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'animal qui est seul dans mon objectif. Là, pareil, c'est une photo plein cadre. J'ai pas ni recropé, ni j'ai rien. Voilà, j'ai juste eu ça dans le viseur quand j'ai pris la photo. Voilà. Hein. Donc, quand il y a un gros prédateur comme ça qui vous arrive dessus en vous regardant droit dans les yeux, droit dans l'objectif, si je peux dire, on se sent tout petit. Et surtout que là, il venait vers moi en rugissant. Et c'était au coucher du soleil, il y avait une lumière de fou. Je me rappelle encore ça, tous les copains qui sont là, qui devaient regarder l'interview, ils étaient là aussi, il y en a beaucoup, qui ont vécu ce moment, on tremblait, quoi, parce qu'ils rugissaient, la savane, elle tremblait, comme je l'avais jamais entendu. Et en plus de ça, ils me regardaient droit dans les yeux, et je me rappelle même, j'avais une petite larme dans l'œil quand parce que je savais que je vivais un moment fort. Et voilà, en fait, c'est surtout le fait que voilà, l'animal vous regarde et on a vraiment l'impression que qu'on est la proie, quoi. Donc c'est prenant comme scène, très prenant. Ouais,
là, on le voit vraiment. Moi, c'est le mot de majesté qui me revient. Il est extrêmement impressionnant avec toute la richesse des détails dans la crinière qu'on voit un petit peu au vent. C'est vraiment une image qui est très impressionnante. On va voir aussi une autre image. Là, avec un petit peu le même cadrage, mais avec un bokeh au premier plan, comme si tu étais à plat ventre. Alors, j'imagine que c'est déconseillé quand on est dans la savane d'être à plat ventre dans la nature. Comment est-ce que l'image a été prise là pour avoir cet effet?
Ça, c'est une photo que j'ai réalisée avec un système qui est devenu interdit. Hein, c'est ce que je te disais un peu avant. Là. En fait, c'est l'intérêt dans la photo animalière, c'est d'être comme dans la photo, je pense, des humains, c'est d'être au même niveau que le sujet. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment d'être au même niveau. Et là, on a l'impression que je suis allongé sur l'herbe, mais sauf que je suis sur une planche. Alors, on appelle ça le système de la planche. Pourquoi? Parce qu'en fait, on enlève la portière où la portière, elle se transforme en plateforme qui va nous rabaisser encore plus au niveau du sol. Et c'est grâce à ce genre de truc qu'on arrive à faire ce bokeh et qu'on a l'impression qu'on est allongé dans l'herbe. Ouais. Donc là, la léoparde, elle est un petit peu plus haut que moi. Ça aide aussi, hein, parce que du coup, là, c'est pas cette photo là, elle est pas issue de cette image, mais bon, c'était la même léoparde, hein, c'est Cabosso. Tout le monde la connaît, enfin, il la connaissait peu cher parce qu'on a plus trop de nouvelles. Mais voilà, donc c'est ce système alors qui, pour moi, je trouve fait toute la différence dans les photos parce que ça apporte vraiment un vrai plus en termes de résultats, quoi. C'est je trouve que c'est, voilà.
Et le procédé est interdit pour quelle raison?
Alors oui, ben c'est comme tout, hein, voilà, il y en a qui ont abusé, hein, parce que le léopard, le problème c'est qu'il va pas sauter dans la voiture, malgré que là on pourrait croire, hein, parce que là dans ce cas, moi j'avais la léoparde à 10 mètres, hein, sur la photo on le voit, c'est une photo que j'ai, la photo making of c'est réalisé avec une GoPro, donc elle a tendance à éloigner le fond, mais la léoparde elle est à 10 mètres. Et en fait, ben elle se rapproche. Hein. La léoparde là, dans cette scène, elle m'est passée à 30 cm de l'objectif. Hein. Donc, il y a les respectueux qui arrêtent, qui font stop parce que là, on va franchir des limites et il faut pas, hein, parce que après, il reste plus qu'à un peu l'appeler, la léoparde. Hein. Si je l'avais appelé ou lui a fait un petit clinquement des doigts, là, claquement des doigts pour la faire agir, ben elle serait venue. Hein. Donc. Il y en a qui ont abusé. Hein, le léopard, il a interagi avec le photographe. Mmh. Et ça devient dangereux parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein, l'animal, ça reste un animal sauvage. Il peut à tout moment sauter dans la voiture et blesser ou tuer même le photographe. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est l'animal qui va en tirer les pots cassés et il va être tué. Donc, le parc a dit stop, on arrête cette pratique. Elle est trop... les gens, ils ne respectent plus rien.
Ouais, ça risquait d'être trop intrusif.
Voilà. C'est trop intrusif, du coup, on ne peut plus pratiquer ce truc.
Tu donnais le nom de la léoparde, là on va voir une autre image avec un animal assez, assez célèbre, je crois, toujours dans le portrait. Les animaux, souvent, vous connaissez leur prénom. Là, celui-ci s'appelle Scarface, tu as donné le prénom de la léoparde. ils sont identifiés, il y a une identification véritable.
En fait, il reste tellement peu de prédateurs, parce qu'on va pas quand même mettre un nom aux herbivores, mais tous les prédateurs, il en reste tellement peu qu'ils ont quasiment tous un nom. Bon, pas les cervales, hein. Les cervales ils ont pas, ou les caracals encore moins, mais les lions, les guépards, les léopards ont tous plus ou moins un nom. Alors là, c'est Scarface. Alors, il est. Pourquoi Scarface? Parce qu'il a cette cicatrice sur l'œil. C'est une cicatrice qui a jamais cicatrisé, hein, qu'il a gardée pendant des années et des années. Ben, je crois depuis le début, hein, quasiment. Peut-être pas au début, je crois qu'il a eu, assez 9 ans, il me semble. Enfin, je sais plus. Mais donc, du coup, il était facilement reconnaissable. Donc, qui dit reconnaissable, les gens voulaient voir Scarface. Parce que, il est emblématique. Hein, c'est un peu aussi. Le méchant dans Le Roi Lion, donc tout le monde voulait voir Scarface, donc c'était le lion le plus connu au Maasai Mara. Il a vécu 14 ans, il est mort le 11 juin 2021, il avait 14 ans, et il a 8 jours avant que j'aille le voir pour une dernière fois, mais il était vieux, alors il est mort de vieillesse, hein. c'est rare chez les lions. Pour la petite histoire, le lion qui me vient de face sur la photo précédente, lui, il a été mort, il est mort tué par d'autres lions. Ouais. Lui, il est mort de vieillesse. Et voilà, c'est un portrait classique, hein, du piqué, du bokeh, et en plus de ça, c'est Scarface, donc voilà, photo.
Et justement, on va voir une autre image, mais pour faire le portrait d'un animal sauvage, qu'est-ce qui fait qu'un portrait est pour toi réussi? Est-ce que c'est la richesse des détails? Est-ce que
alors, il y a plusieurs trucs, hein. Là, voilà, c'est le petit guépardo, donc c'est déjà super beau comme animal. Hein.
Ouais.
Donc oui, pour moi, ce qu'il faut, c'est que ce soit net, hein, parce que si c'est prêt, il faut que ce soit net. Bon, là, la mouche, elle est floue parce que je suis au 600. Bon, cette photo, elle est un peu recadrée, recroppée, parce que sinon, il serait tellement prêt, je crois qu'il aurait la tête dans l'objectif. Donc non, mais voilà, ce qu'il faut, c'est avoir une émotion. Là, on voit une symétrie. Par rapport au centre de son visage, j'aurais pu couper. Alors, il y en a beaucoup qui font ça aussi, couper la tête et garder qu'un côté. Mais moi, voilà, je préfère garder les deux yeux. Et voilà, ce qui fait qu'un portrait fonctionne, c'est l'expression de l'animal. Là, on voit qu'il a du sang sur ses babines, donc on s'imagine qu'il s'est bien régalé, qu'il a bien mangé. Si on voit bien la mouche qui est sur la truffe, et puis on peut voir aussi le 4x4, hein, dans lequel je suis, dans son regard, en zoomant un peu.
Effectivement, si on regarde attentivement dans la pupille, on voit le reflet.
On voit des 4x4. Mmh. Et puis c'est une photo qui m'a bien plu parce que c'est un safari que j'avais partagé avec mon fils l'année dernière et qui a 10 ans, et donc voilà, pour moi le rapport me rappelle beaucoup de souvenirs, quoi, cette photo, donc voilà. Ouais. Voilà.
Il y a dans la volonté comme ça de témoigner de la beauté de sa nature, cette nature, il y a ces images, mais il y a également témoigner de cet habitat qui recule, qui est un habitat fragile et qui recule devant les avancées des villes. On le voit bien avec cette photo, qui est une photo qui quand même a là une valeur de témoignage aussi. Tu l'as intitulée en plus « La dernière corne ». Est-ce que tu peux nous dire pourquoi?
Alors voilà. Alors tu vois, contrario à ce que je te disais en début d'émission là, c'est que c'est une photo que j'avais en tête. Hein. Bon, je l'ai déjà vue quelque part. Hein. C'est pas une photo que j'ai créée de moi de toute pièce. J'avais déjà vue et je voulais la faire. Donc j'ai contacté mon tour opérateur pour lui dire voilà, je voudrais aller au parc national de Nairobi pour essayer de faire cette photo. Et ni une ni deux, il m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, tu viens un jour avant les safaris au Maasai Mara et puis on essaiera de la faire. Et puis on a passé l'après-midi, hein, parce que c'est un après-midi, c'est tout, et puis j'ai réussi à la faire. Donc j'étais hyper content parce que ce n'est pas évident. Hein, là, il fallait trouver un rhino et puis aligner le rhino dans cette ville. Donc voilà, on a cassé les pieds au guide pour. Il comprenait pas, le guide Péjan, mais encore avec ce rhino là, il comprenait pas pourquoi on était là à essayer de faire ça, parce que il disait ouais, mais il y a la ville. Dit, non, mais je veux qu'il y ait la ville.
Ouais.
Et puis j'ai réussi à la faire, donc j'étais super content parce que voilà, j'ai réussi à la faire. Alors, c'est pas tout le temps le cas, hein, mais là ça a fonctionné. Bon, il y a elle est critiquable, hein, on pourrait en trouver des défauts, mais bon voilà, la corne. Elle est avec la tour là. Et on voit bien que la tour.
D'accord, elle répond un petit peu.
Voilà. Elle a la même. Elle met la ville en appui, quoi. Et du coup, ben voilà. Après, un traitement un peu particulier, sépia gris, qui accentue cet effet fin du monde, hein, parce que voilà, il y a presque plus de rhinos. C'est un peu le message qu'elle veut dire, cette photo. Il y a presque plus de rhino. Et voilà, la ville prend le dessus sur l'espace naturel, quoi. Voilà. Donc, voilà.
Et ces photos aussi, ça témoigne de la beauté de la nature, ça témoigne aussi de sa fragilité, ça témoigne aussi parfois de son mystère. On va terminer l'interview avec un animal rare que tu as été particulièrement heureux de croiser, c'est le caracal. On a choisi, tu avais quelques images, on a choisi ensemble cette photo que j'aime beaucoup, où l'animal garde justement tout son mystère, on ne le voit pas intégralement, on le devine, et sa poésie. Est-ce que tu peux nous parler de cette image?
C'est ça. Ben alors, pour un photographe animalier qui est passionné de l'Afrique, le caracal, c'est un peu le caragral, on l'appelle. Hein. Tout le monde l'appelle comme ça parce que il est dur à voir. Hein. C'est pas, on le voit pas tout le temps. Hein. C'est un animal nocturne, donc on le voit pas. Enfin, moi, c'était la seule fois que je l'avais vu. Hein. Et voilà, je l'ai vu. Alors ça a duré, voilà, pareil, trois minutes. Hein. Il était sur le côté de la route. Hein. Il a traversé la route et puis hop, il est allé dans ses herbes. Et puis voilà, c'est. Alors les autres photos, elles sont ce qu'elles sont, mais je trouve qu'elles apportent rien parce qu'elles sont pas vraiment réussies. Par contre, celle-ci, elle reste encore, comme tu dis, encore une part de mystère, hein, oui, de cet animal fantôme où on voit que ses bouts d'oreilles là, ses plumes qui dépassent là en dessus les herbes. Et tant mieux parce qu'il m'a fait ce cadeau, je l'ai vu, voilà, j'ai fait cette photo. Bon, j'espère en faire une autre un jour de cet animal. Mais voilà, c'était un beau cadeau parce que photographier le caracal, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, quoi, voilà.
Ouais, et puis les oreilles en plus là le rendent quand même très identifiable, cet animal.
Ouais. Ouais, on le voit juste dépasser ses oreilles, voilà, il est reparti comme il est venu. Un fantôme, quoi, voilà, comme un fantôme. Ouais.
Bon, en tout cas, moi, je suis très heureux qu'on termine avec cette image qui est pleine de mystère et de poésie, qu'on termine l'interview, mais pas l'émission, puisqu'on va
merci
avoir
à toi, Guillaume,
la chronique de Frédéric. Et puis, on te retrouve en fin d'émission pour ta recommandation. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé ces images qui sont impressionnantes et qui témoignent quand même d'une nature qu'on a tendance à oublier, qui semble est très proche, parce qu'on a tous des lions dans notre imaginaire, et pourtant quand même très très lointaine aussi. On te retrouve tout à l'heure, merci beaucoup.
Super, merci
Olivier.
À toi Ilan, merci.
Et on va maintenant accueillir Frédéric, qui va sortir de sa boîte. Frédéric, salut, re-salut.
Re-salut Ilan, oui.
Merci beaucoup d'avoir passé ce temps en coulisses avant de nous présenter ta chronique. Et pour ta chronique, il me semble que tu vas la commencer par un souvenir qui peut-être en tout cas, nous rassemble tous.
Oui, je pense qu'on a tous des souvenirs un peu ennuyeux d'après-midi photos avec un tonton, une grand-mère ou des parents qui nous montraient leurs photos de voyage et c'était souvent assez bavard et vraiment très ennuyeux.
Ouais. Bon, écoute, quant à moi, franchement, je fais l'aveu et peut-être vous ferez la même aveu sur le chat pour que je me sente un peu moins seul. J'ai très probablement pris lors de mes voyages de ces photos souvenirs qui finalement devaient intéresser que moi.
Moi aussi, je te rassure, Ilan.
Bon, alors ça va, on est deux. On est au moins deux.
Non, parce qu'effectivement, photographier d'ailleurs, ça fait partie intégrante de la pratique photographique. C'est-à-dire que la photo, c'est aussi, à profonction aussi de figer un instant, un lieu. Et ça a une valeur de souvenir. La première image que je voulais montrer, c'est une image de 1854 de John Beasley Green, qui nous offre une vue du Nil, des rives du Nil, à Thèbes, en Égypte.
Ouais. John Beasley Green, comme son nom ne l'indique pas forcément, était français, égyptologue et photographe. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, au début du 19e, à la suite des campagnes napoléoniennes, il y avait un véritable engouement pour l'Égypte, et le déchiffrement des hiéroglyphes, quelques années plus tard, en 1824, a contribué justement à cette fascination.
Et oui, et ces prises de vue de John Beasley Green, j'ai pas le même accent que toi, Ilan.
Ah bah, je l'ai travaillé.
Je vois ça, enfin j'entends. On contribue à documenter, à alimenter cet engouement pour l'Égypte. On peut pas vraiment parler de photos souvenirs, en l'occurrence, mais on peut parler, par contre, de photos de voyage, et ça va être mon propos d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui pousse un photographe à photographier l'ailleurs ? Il y a donc les photos aux souvenirs, comme toi et moi on a pu faire, mais il y a aussi, selon moi, trois pistes qu'on peut explorer. Aller découvrir un lieu et ses habitants, témoigner de la fuite, de l'exil, et en dernier lieu, quelque chose qui serait plus de l'ordre de la quête mémorielle.
Ouais. Bah, écoute, on va voir ça et on va commencer peut-être par la découverte d'un lieu, parce que tu nous y invites. Allons-y.
Alors oui, moi je vais commencer par des photographes qui choisissent d'explorer un lieu, de le documenter, d'en révéler la quintessence. Alors ça peut être un pays, ça peut être une ville, ça peut même être une maison. Mmh. Et pour représenter ce mouvement, j'ai envie de vous parler du travail de la photographe française Claudine Doury, qui est membre de l'agence Vue et qui a écrit un livre qui s'appelle Amour. Mmh. Alors, je trouve que c'est un travail remarquable, et puis je trouve ça assez génial de pouvoir parler d'amour sur les ondes du studio de Jimini.
Mais tout à fait.
Alors, en 1989, Claudine Doury prend un atlas, parcourt les pages, et elle tombe sur une carte de la Sibérie. Et dans l'Est sibérien, il y a un fleuve qui traverse une bonne partie de la Sibérie qui s'appelle le fleuve Amour. Alors, elle est saisie par nom, elle est transportée par ce nom, et elle décide d'y aller et de rencontrer les peuples autochtones qui sont les Nanaïs et les Ulch. Mmh. Donc, on a des exemples sur les photographies de la vie de ces gens-là. Et ce qui est passionnant, moi, je trouve, dans le travail de Claudine Doury, dans ses voyages, c'est la rencontre qu'elle fait avec l'autre. L'autre avec un A majuscule. C'est... Je pense que pour découvrir un lieu, pour le comprendre, pour le documenter, pour comprendre ses habitants, il ne faut pas y aller de façon expéditive. On ne fait pas du tourisme, on prend le temps, on voyage. On ne fait pas 3 photos d'enfants qui sourient et puis on rentre. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps de discuter avec les gens, qu'il faut comprendre leur mode de vie. La photo qu'on a là, par exemple, nous montre bien la façon de vivre de ces gens-là. Mais aussi comprendre ce qu'ils subissent, ces peuples autochtones. La mondialisation, le réchauffement climatique, leurs vies sont bouleversées. Et donc, il faut vivre avec eux, partager. C'est l'importance de cette photographie-là. Et c'est aussi une autre chose qui me semble très, très importante. C'est de revenir le plus souvent possible, alors en fonction de ses moyens, etc., sur les lieux, comme le fait Claudine Doury. Claudine Doury, elle reviendra en 97 et en 2008. Mmh. Et elle nouera des liens, des relations avec les habitants de cette région du monde. Et elle reste assez longtemps quand elle est sur place. Donc, pour conclure un peu sur cette photo de voyage, et non pas photo de tourisme, il n'est pas nécessaire d'aller loin. On peut faire ça en France, etc. Mais par contre, il me paraît extrêmement important de retourner plusieurs fois sur les lieux, de prendre son temps et de prendre surtout le temps de connaître les gens. Je crois que c'est la chose la plus primordiale, en fait.
Ouais. La question du temps et de prendre le temps, de toute façon, est une question qui devrait nous occuper tous.
Oui.
Donc ça, la découverte d'un lieu, mais parfois l'ailleurs, puisque c'est le sujet de ta chronique, rime aussi, et plus malheureusement, avec l'exil et le déracinement, et c'est le cas du deuxième photographe dont tu vas nous parler.
Oui, alors moi je vais vous parler pour le second photographe dont je veux parler, c'est Josef Koudelka, donc il est né en Tchéquie, enfin c'était la Tchécoslovaquie même à l'époque, en 1938, et il devient photographe en 1967, de façon officielle, après avoir fait des études d'ingénieur. Mmh. Et en 1968, il y a le printemps de Prague, alors... Petit rappel rapide, la population pragoise et plus largement la population tchécoslovaque aspire à plus de liberté. La Tchécoslovaquie, c'est une république sœur de l'URSS, donc un régime assez dur, surtout à cette époque. Et en 68, il y a cette espèce de vent de liberté qui s'ouvre dans le monde et les Tchèques aspirent à plus de liberté. Sauf que les Soviétiques envoient des chars d'assaut, c'est le printemps de Prague. Et il y a cette photo extrêmement célèbre de Josef Koudelka qui montre l'arrivée des chars soviétiques. Ouais. Et Koudelka, à cause de cette photo et puis d'autres qu'il a fait sur l'invasion soviétique, doit fuir son pays.
Ouais. Il y a un autre Tchèque célèbre, parce que de Koudelka à Kundera, il n'y a qu'un pas. Tchèque lui aussi, donc, qui va raconter cet épisode et l'exil qui s'ensuit dans son livre le plus connu, qui est L'insoutenable légèreté de l'être, donc de Milan Kundera.
Oui, alors Koudelka s'enfuit, il se retrouve au Royaume-Uni où il devient réfugié politique en 1970 et au même moment il entre à l'agence Magnum. Koudelka dira qu'il n'est pas qu'il n'est pas anglais, qu'il n'est pas tchèque, il se revendique comme étant apatride. Et ça va l'amener à avoir une vie faite d'errance, de voyage, de rencontres, et ça va donner lieu à 2 ouvrages majeurs de la photographie qui, pour moi, sont des monuments. Je pense qu'il y a deux livres qu'on doit avoir dans sa bibliothèque, c'est ces deux-là. C'est Les Gitans et Exil. Alors, la première photographie là, qu'on a à l'écran, c'est une photographie extraite de Exil qui a été prise à Versailles. Mmh. Et en fait, ce qui est intéressant chez Koudelka, c'est qu'il ne cherche jamais le sensationnel. Il cherche à documenter le lieu. Alors, il y a ce chien-là, il y a quelque chose d'un peu apocalyptique. Mmh. Mais ce qui est important chez Kuldelka et dans toute sa photographie, c'est l'ambiance, le moment. Voilà, c'est un espèce d'instantané du lieu. Et donc, quelque part, on ne voit pas que c'est Versailles, enfin, sauf si on connaît très très bien Versailles. Et voilà, il va documenter comme ça ses errances, ses voyages, ses exils. Et sur la photo suivante, donc avec cet homme, avec ce cheval, qui est extrait de l'ouvrage Gitan, il nous montre la complicité qu'il y a entre ce gitan et son cheval, ce lien qui unit ces deux personnages. Et Kuldelka va beaucoup s'attarder à ça, hein, sur le lien entre les hommes avec les animaux, et surtout les animaux des gitans, les chiens, les chevaux. Et donc, il y a une vraie humanité. Hein. C'est pour moi une sorte d'éloge du vagabondage, de la rencontre, et puis de l'exil, parce que Kuldelka passe sa vie en exil. Hein. Il a pu retourner en Tchécoslovaquie une fois que le mur de Berlin est tombé, que les républiques socialistes de l'Est ont disparu. Mais finalement, la majeure partie de sa vie s'est faite en exil. Alors, Kuldelka... Moi, j'ai une petite phrase de Kuldelka que j'aime beaucoup, ouais, qui, je pense, doit servir un peu de base à chaque photographe. Je n'ai jamais vu de héros dans ma vie ou en photo. Je me suis contenté de voyager, regarder, et tout m'influence. Mmh. Et je crois que c'est ça, hein, c'est toute la différence chez Kuldelka entre le voyage et le tourisme. Pour moi, Frédéric, le voyage, c'est la rencontre avec un lieu, avec ses habitants. C'est prendre son temps pour apprendre les uns, les autres. Le tourisme, c'est aller loin, vite, galoper d'un monument à un autre, prendre des milliers de clichés, et puis finalement rentrer et se dire, mais qu'est-ce que j'ai vu ? Qu'est-ce que je retiens ? Et en fait, on retient peut-être pas grand-chose. Et ça m'amène à... Alors, c'est pas la conclusion, mais à une idée que je trouve très importante. Je peux inviter tous les auditeurs à se pencher aussi sur les livres et les photographies de Nicolas Bouvier. Alors, Nicolas Bouvier, c'est un auteur suisse qui a écrit « L'usage du monde », qui relate son voyage de France, alors il est parti en France, hein, même s'il est suisse, jusqu'en Iran, en voiture, et il a fait ça en 1953. Et c'est un livre magnifique, et je crois qu'il est fondamental de lire sur le voyage, hein. Je dis Bouvier, mais ça peut être Tesson ou d'autres, pour bien photographier nos propres voyages. Et Bouvier, notamment dans sa relation à l'autre, c'est une vraie leçon de voyage et d'humanité, ce livre. Donc, l'usage du monde. Mais il doit être dans le chat, j'imagine.
Oui, on a mis toutes les références. Sylvain a mis toutes les références dans le chat. Sur l'ailleurs, il y a la découverte d'un lieu. On l'a vu avec Claudine Doury, l'exil. Tu vas maintenant nous montrer, je trouve ça passionnant, que le voyage peut aussi s'apparenter à une quête mémorielle.
Oui, ça va être la dernière photographe que je vais vous présenter. On peut voir le voyage aussi comme un retour sur le passé, une plongée dans la mémoire personnelle. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du travail de la sociologue, écrivaine et photographe Irène Jonas. Irène Jonas, elle est née à la fin des années 50 d'un père qui était juif. Et elle a donc, d'une certaine manière, porté le poids d'une histoire qui était récente. Hein, 1950, c'est la Shoah, qu'elle n'a pourtant pas vécue. Elle est née après la guerre. Et donc, elle a décidé, entre 2018 et 2020, de voyager dans des lieux de mémoire en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, mémoire liée forcément à la Shoah, qui sont devenus entre-temps des lieux de tourisme, paradoxalement. Et donc, dans ces images, elle gomme toute temporalité en peignant ses propres photographies. C'est-à-dire qu'elle fait une prise de vue et par-dessus, chaque image donc devient unique, elle peint ces images à l'huile. Et donc, ça donne cet aspect un peu intemporel, un peu comme si une photo colorisée, on ne sait pas trop. Et ça gomme le risque de faire des photos qui pourraient être, entre guillemets, touristiques, même si j'aime pas ce mot rapporté à Irène, que je connais par ailleurs et qui n'est pas du tout dans le tourisme. Donc voilà, donc on est dans vraiment une autre dimension de la photographie de voyage. On revient sur le passé, on revient sur son propre passé. C'est, j'allais dire, une photo qui permet aussi, quelque part, de se connaître mieux.
Ouais. Voilà. Je trouve que c'est une très jolie ouverture. Merci beaucoup, Frédéric, pour avec cette plaisir. Chronique. C'est un plaisir de t'écouter, de prendre le temps, puisqu'il est question du temps qu'on s'autorise à prendre pour discuter également. Une chronique à visionner donc et à revisionner. Toutes les références, je l'ai dit, il y en a beaucoup dont nous parlons, sont données en parallèle par Sylvain sur le chat. On arrive presque à la fin de l'émission. Je vais demander à Frédéric, Vincent et Olivier de me rejoindre pour qu'on puisse terminer par un tour de table, une petite recommandation. Bon, c'est bien, les plats ne sont pas en train de brûler dans les fours, tout va bien.
Non, c'est bon.
J'ai géré ma quiche au four, là, ça va.
Bon, écoutez, parfait. Pour terminer cette émission, on va chacun proposer une petite recommandation à un photographe qu'on a envie de mettre en une minute, même pas 30 secondes, sur le devant de la scène, en tout cas de conseiller aux gens d'aller voir. Ben, écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais commencer. J'ai découvert, moi, récemment, pendant une expo au Musée d'Art Moderne du Havre, qui s'intitule Météorologique, un photographe qui s'appelle Masao Yamamoto. C'est un photographe japonais qui réalise de tout petits tirages. C'est vraiment des tirages qui sont extrêmement petits. Il va photographier des scènes de vie, des natures mortes, des photos de paysages également, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de finesse, beaucoup de poésie. Et ce qui rend en plus cette image et ce photographe particulièrement intéressant, c'est qu'il fait de chaque tirage un objet unique et individuel. C'est-à-dire qu'il va faire lui-même ses tirages, il va les vieillir avec du thé, il va les déchirer aussi parfois pour faire non pas une photo, mais un véritable objet photographique. Moi, c'est des images qui m'ont beaucoup touché. Donc, si je peux encourager les gens à aller voir son travail, il s'appelle Masao Yamamoto. Alors, est-ce que Vincent, on enchaînerait sur ta recommandation?
Déjà, je plus sois à ce que tu viens de dire, parce que effectivement, ouais, c'est un photographe que j'avais découvert au musée Stéphane Mallarmé, dans mon souvenir, et qui était très très bien. Et le musée d'art moderne, on continue dans cette idée, parce que moi, je voulais vous conseiller une exposition qui a lieu au musée d'art moderne de Paris, cette fois, donc de Zoé Léonard, c'est une photographe américaine. En fait, elle a parcouru les 2000 km de fleuve frontière que constitue le Rio Grande entre les États-Unis et le Mexique, et qui présente en fait au final un ensemble de 500 tirages argentiques. C'est une somme assez assez impressionnante, et la scénographie aussi est très impressionnante, notamment de sobriété. Enfin, c'est assez c'est une expérience quand même, cette expo. Voilà, et ça se termine ce week-end, donc faut pas traîner trop non plus. Hein. Eh ben, écoutez, j'en profite pour faire, si possible, un petit coucou à Noah, qui est un très jeune photographe, très prometteur, que tu recevras sûrement dans quelques années, je pense.
Eh ben, très bien. Rendez-vous est pris, encore une fois. Merci beaucoup, Vincent. On va avoir maintenant ta recommandation, Olivier. Tu vas nous parler d'un photographe qui est assez connu en photo animalière. Il s'agit de Tony Crocetta.
C'est ça.
Ouais.
Voilà, pour moi, c'est celui qui, je lui dois tout, hein, il m'a tout appris, c'est mon mentor, mon idole, on va dire, hein, voilà, c'est grâce à lui si j'ai beaucoup appris, hein, j'ai eu la chance de faire, il y a plus de 10 ans maintenant, une formation avec lui, en 4x4, en safari, dans sa structure, et du coup, ben voilà, il m'a donné le goût encore plus à la nature, encore plus à la photographier, mais surtout à la mettre en avant avec cette touche, hein, qui le caractérise aussi, hein. On a un peu la même touche, hein. Et voilà, ça c'est son léopard à lui, c'est Romy, hein, on la présente plus, tous les safaristes la connaissent. Donc c'est pour ça que voilà, c'est sa photo, c'est ce personnage, ce photographe. Voilà, moi je voulais le remercier, et puis voilà, si vous voulez, sans faire de pub, si vous voulez faire un safari, c'est chez lui qu'il faut aller. Voilà, chez Magic Road Safari. Voilà.
En tout cas, il y a son nom qui est effectivement dans le chat.
Merci beaucoup, en tout cas.
Tony Crocetta. Et on termine le tour de table avec toi, Frédéric. Tu vas nous présenter une photographe avec deux images.
Oui, je voudrais vous présenter une photographe française qui s'appelle Linda Tulou. Linda, elle a un univers que j'aime beaucoup, très onirique, très féminin aussi. Ses photos sont intemporelles, sont dans une douceur permanente. Alors moi, il y a cette photo qui est à l'écran que j'aime beaucoup parce qu'elle transfère ses tirages sur des cailloux. Il y a comme un voyage, comme un chemin. C'est ce que j'aime beaucoup dans le travail de Linda. Et puis j'aime aussi beaucoup Linda parce qu'elle travaille beaucoup sur la lumière, sur le feu aussi. Elle a des polaroïdes qu'elle brûle. Et ça amène à cette seconde photo où voilà, il y a tout le temps beaucoup de lumière, de matière dans les photographies de Linda, et c'est ce que j'apprécie particulièrement chez elle. Et je voudrais rajouter que l'expo dont tu as parlé, Vincent, est vraiment très, très, très impressionnante. Voilà. Voilà.
Très bien. Merci à tous les trois pour ce tour de table. Merci
à toi.
Merci pour vos chroniques, pour le temps que vous avez passé, pour que tu as passé, Olivier, pour nous parler autour de tes images. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter.
Merci sympa.
À vous tous qui nous avez écoutés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si jamais les contenus vous plaisent et si vous voulez être informé des prochaines émissions. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission et passez une bonne soirée. Ciao.
Merci. Salut. Merci. Ciao.